Ah, il est là.
Alors, eh ben, oui, peut-être, vas-y, pendant que je branche. Ouais, Valérie.
Alors nous allons poursuivre avec Valérie.
Attends, il y a un peu de technique à faire. C'est parce qu'on est en direct hein, sur le site de PAN. Sur le onglet live, on voit toute la journée. Si. Je t'ai mis sur Keynote, ça te traumatise pas, hein.
Pas du tout.
Voilà. Donc,
Bien, nous allons poursuivre avec Valérie Jouet, co-gérante de la société Acatus Informatique basée à Paris et à Orléans. Valérie va donc vous présenter la base de données EPIND, sciences participatives et développement informatique, et notamment l'interface de saisie des données. Voilà. Okay.
Le live a sauté, apparemment. Attends, excuse-moi, je vais juste... Ben non. Arrêtez le streaming. Bon. Attends, tu m'excuses juste, je vais quitter, ouais, je vais relancer. Êtes-vous sûr de vouloir quitter? Oui, puis on va relancer. Je pense que c'est bon.
Alors tout d'abord, je voulais remercier donc Solveig et Luc de nous avoir sollicités. Donc il y a deux entreprises qui ont participé à la réalisation de cette base de données, donc Acatus Informatique et Atimic, donc deux entreprises que je dirige également. Alors c'est pas des GAFA, donc je vais rassurer Roy, on n'est pas du tout dans une démarche de volonté de captation des données, mais et de toute façon tous les développements sont bien sûr les droits, la propriété intellectuelle revient au projet bien sûr. Donc l'idée avec Solveig, c'était d'abord d'identifier effectivement des objectifs qui étaient donc la collecte de données pour le projet PIND. En sachant que ces données sont mal connues, éparpillées, vulnérables, sans valeur patrimoniale reconnue. Je ne vais pas redire ce qui a été dit précédemment de façon bien plus documentée que ce que je pourrais le dire. Et puis de s'inscrire aussi dans une démarche de science participative ou citoyenne, donc ouvrir à tous les contributeurs avec ou sans compte utilisateur. Et puis, bien sûr, utiliser des composants libres, open source et des formats interopérables. Et moi, j'ai un objectif entrepreneurial derrière également. C'est d'une part de développer la capacité de mon entreprise à construire des outils pour les sciences sociales et d'autre part, en tant qu'employeur, permettre à mes collaborateurs de travailler sur autre chose que de la banque, de l'assurance, de l'automobile. Voilà. Donc, c'est des projets que l'on mène dans cet esprit-là. On est parti sur un design qui est extrêmement simple, on va dire, qui reprend les codes qui ont été développés pour le site Internet. En noir et blanc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, en noir et blanc, et c'est des polices de caractère qui sont accessibles, puisqu'une partie de mes collaborateurs sont en situation de handicap, et donc sont particulièrement attachés à ce que tout ce qu'ils développent soit particulièrement accessible, c'est-à-dire que les lecteurs d'écran puissent les lire, qu'on puisse jouer sur le contraste ou sur la taille des caractères. Donc l'accès à la base, il permet de se faire avec donc un compte utilisateur connecté, comme à peu près n'importe quelle base de données. Mais il permet aussi d'accéder à l'application avec des droits limités. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ne voulez pas vous déclarer, si vous avez une réticence quelconque, peu importe laquelle, vous pouvez très bien utiliser la base, apporter votre contribution en ouvrant un compte anonyme qui ne vous permettra pas de valider les données, mais qui vous permettra en tout cas de les saisir. Et il y aura derrière des valideurs donc qui garantiront la qualité des données. Alors, les entrées de la base, ce sont les groupes, les personnes, les productions et les événements. Je vais peut-être essayer de passer plutôt sur la base elle-même. Le PowerPoint est là pour nous garantir qu'en cas de pépin informatique...
Alors, normalement, elle est dans mes favoris. Hein, mais favoris, je la regarde tous les jours, plusieurs fois par jour. Non, c'est pas vrai, j'ai pas eu le temps.
Alors moi, je l'avais sur mon PC, donc je sais qu'elle elle tourne. Non, mais c'est vrai, moi j'ai une grosse méfiance pour l'informatique, honnêtement. Plus je suis dedans, plus je suis méfiante. Donc en fait, il y a quelques, dans cette base-là, il y a quelques données pour l'instant, et c'est Pierre qui les a saisies.
Normalement, ça marche. Mais non, mais c'était pour tester. Tu crois que je me suis trompée, il n'y a pas 3002 ?
Si, si, il y a 3002, mais peut-être un slash.
Il manque un slash à la fin ?
Voilà. Ou tu peux aller sur login, carrément.
Mais il veut pas. Ah oui, je vais carrément sur login.
Donc en fait, je vais continuer pendant que ça tourne. Là. Donc c'était un développement spécifique, c'est-à-dire qu'on l'a véritablement conçu pour permettre de saisir et donc de collecter, de stocker les données avec les particularités qui ont été identifiées par les chercheurs. Typiquement, quand on fait une base de données personne, en général, on a des rôles qui vont se succéder.
C'est parce que c'est un réseau pro. À Hyacinthe non plus, elle ne peut pas y accéder par l'université ici. À Hyacinthe, quand elle est à l'université, elle ne peut pas se loguer.
Alors, on peut brancher mon PC.
Tu l'as en interne, là, sur ton PC ?
Non, je l'ai par mon iPhone. Ça,
par ton iPhone, tu crois
pas ? On branche mon iPhone.
Attends. Luc, tu peux me donner mon iPhone, s'il te plaît ?
Donc quand on conçoit une base de données qui doit normalement permettre de collecter...
Comment ? Ça ne changera rien ? Ça ne changera rien. Si, en 4G, si. Comment ?
Non. Bon, moi je veux bien rester
sur... On va rester sur le PowerPoint. En fait, c'est passé un réseau pro. Qui bloque les trucs.
On explique.
T'es têtu tout à l'heure.
Ah,
on va se mettre en 4G. Vas-y, continue à parler, je te le mets.
Ok.
Ah oui, pardon. Ok. Oui, donc en général, quand on conçoit une base de données qui va stocker des données sur des personnes, on a des rôles qui vont se succéder parce qu'on est dans un système de carrière et d'évolution. Là, on a été amené à prévoir des rôles qui vont s'entrecroiser, qui vont se chevaucher de façon à ce qu'un artiste puisse avoir un rôle dans un groupe et en même temps un autre rôle dans un autre sur des plages chronologiques qui se chevauchent ou qui vont être identiques.
Ça marche pas, je n'arrive pas à l'attraper.
Mais non, c'est pas... non, c'est pas ça que je voulais faire.
C'était... Ça marche pas, je n'arrive pas à attraper le partage de connexion ici.
Tu veux aller chercher le mien ?
Vas-y.
Ou on se contente du pot ?
Ah, regarde, attends, je vais le brancher, tu vas voir.
Non, mais attends, Solveig, c'est pas ça qu'il faut faire.
Si, tu veux une vidéo projetée sur mon iPhone.
Non. Elle n'est pas responsive, donc il s'affiche pas. Eh bien, il faut le...
Oui, mais regarde, j'ai pas accès sur mon Mac, je vois pas où est
le... Bon, c'est pas grave. Alors, on passe sur le...
Ouais.
On va terminer
c'est sur... Pas grave, hein. C'est pas grave.
C'est pas grave. ça fonctionne. J'étais dessus tout à l'heure. Donc voilà, donc ça c'est l'accès pour les données groupe. Donc vous pouvez créer un groupe ou en rechercher et afficher la totalité des données qui sont aujourd'hui stockées. Donc c'est des données à la fois de date de création, lieu de création. Il y a la partie donc données géographiques qui va permettre de faire des analyses spatiales à terme. Pour l'entrée personne, il y a également déjà des données. Donc on a la possibilité sur le même écran à la fois de créer une personne ou d'en chercher une qui existe avec différents critères, sa fonction, son surnom, son groupe. Et pour les personnes qui ont des rôles différents sur une même période, on a cette petite flèche qui est devant leur nom et qui permet donc de ouvrir la section et d'afficher la totalité des informations qu'on va avoir. Et puis, bien sûr, on peut éditer les données au sein du tableau. On a repris le même fonctionnement pour les productions. Voilà, donc la typologie des productions, le titre, la date de là où les dates de publication. Il y a la possibilité, lorsque c'est un album par exemple, de saisir des rééditions qui auraient été faites au fil du temps. Et puis on a donc l'entrée événement. Qui fonctionne exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'on, selon la typologie des événements, on peut avoir différentes entrées. Évidemment, tout ça, c'est triable. Je crois que c'est à peu près tout en termes de capture d'écran que j'avais réalisé. Ce qui est intéressant, ce qui serait intéressant, c'est que vous mettiez à saisir les données le plus rapidement possible. Donc la prochaine étape, c'est d'héberger la base à l'Université de Tours et de vous communiquer le lien de façon à ce que vous puissiez soit vous créer un compte, soit faire des saisies anonymes. Voilà, et donc je voulais juste rappeler les noms des collaborateurs qui avaient travaillé sur le sujet. C'est essentiellement eux qui ont travaillé. Donc Alexandra qui est web designeuse, Laura qui est chef de projet, Jonathan et Farid qui ont assuré les développements.
Je précise juste que les bases de données collaboratives comme ça, basées sur du crowdsourcing, c'est pas très fréquent dans la recherche. Et donc, on aimerait bien faire un modèle de fonctionnement, on va dire, vraiment vertueux et montrer que ça marche et qu'on peut être quelqu'un d'autre qu'un chercheur et avoir, surtout qu'il y a des informations, enfin, il y a les dates de naissance des gens. On précise tout de suite que tout ça, ça sera pas consultable librement. On va devoir passer par la CNIL, toute la machine administrative, etc. Mais c'est toujours plus facile. Enfin, genre, la dernière fois, j'ai demandé à François Desberrues, qui est venu parler, lui, ça va lui mettre environ 10 secondes de compléter les données concernant les berruriers noirs, par exemple. Donc l'idée, c'est vraiment que tout le monde, vous êtes 80, admettons que vous mettiez chacun au moins votre groupe ou deux groupes, on arrive déjà à, voilà. Et l'idée, c'est vraiment de faire de la science participative pour arriver à avoir le plus de données possible. Après, ça va nous servir à quoi? Ça va servir à Olivier tout à l'heure pour faire, c'est quand il y aura des sons, à Marine qui travaille sur l'esthétique des pochettes. Quand on aura numérisé les pochettes, elle va pouvoir avoir des grandes séries sur c'est quoi l'esthétique des pochettes. Nous, ou Olivier Penola-Cassagne qui travaille, je ne sais plus où il est, je ne sais pas s'il est encore là, il est parti, qui travaille sur, qui est littéraire, qui travaille sur le corpus, de taper quand il fera une recherche sur la place de la femme et le mot salope dans le corpus punk, on se rendra compte qu'en fait, c'est une occurrence qui apparaît souvent. Enfin, voyez, donc c'est ce genre de choses, on peut le faire que si on a un gros volume de données. Et comme on n'est finalement pas si nombreux, c'est pour ça qu'on a vraiment voulu faire quelque chose sur les bases de la collaboration. Donc c'est un outil même qu'il faudra vendre, au sens où dont il faudra faire la promotion si ça marche bien. Et puis on fera le bilan dans un an pour voir où on en est. Mais il n'y a pas de raison que ça nous, qu'on n'y arrive pas. Voilà. Mais c'est vraiment, ça a l'air évident comme ça. Je pense que c'est, enfin, moi, nous, on est très, très reconnaissants à Valérie d'avoir fait ça, parce que ce n'est pas quelque chose en sciences sociales qui est très fréquent. Et on aimerait que ça soit vraiment un modèle de fonctionnement pour expliquer à nos institutions que ça peut marcher de travailler avec la société civile. Je mets des gros guillemets. Voilà.